Bonjour messieurs, dames, merci d'être venus nombreux à cette manifestation que l'Espace Modeste France organise depuis longtemps, mais sous forme de manifestation seulement depuis 2 ans, avec le CNRS. Alors l'Espace Modeste France, un certain nombre de personnes présentes ici le connaissent, c'est un centre de culture scientifique qui a une vocation régionale, c'est-à-dire qui couvre toute la région Poitou-Charentes, et c'est un centre de culture scientifique où on fait beaucoup de science, mais on ne fait pas aussi que de la science, on s'occupe de problèmes de société, il y a tout un tas d'expositions, tout un tas de manifestations. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus parce qu'on est pressé par le temps. Je voulais simplement vous dire qu'on est content que cette manifestation à nouveau ait lieu en partenariat avec le CNRS. Nous travaillons en fait beaucoup avec les universités et le CNRS d'Ifremer. Et par conséquent, je vous souhaite pour la journée une bonne manifestation et j'espère qu'on vous reverra l'année prochaine. Et je passe tout de suite la parole à Madame Coutel, députée, qui a quelques mots à vous dire.
Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Oui, moi je suis ici, non pas enfin, au titre de députée bien sûr, mais j'étais adjointe au maire de Poitiers jusqu'au mois de mars dernier et j'étais au conseil d'administration de Modeste France. Non, moi aussi je voulais vous dire un mot parce que vous savez sans doute que vous êtes dans le cœur de l'actualité. Je lisais le programme de vos journées, il y a une table ronde sur les OGM et vous savez que la nuit passée, cette nuit et la nuit prochaine, le débat se passe à l'Assemblée sur les organismes génétiquement modifiés. Un débat très important pour la science en France, pour la recherche, pour l'agriculture, peut-être pour l'avenir de la planète. Et donc vous êtes au cœur de l'actualité. Et je voulais vous dire que ces sujets sont passionnants et je souhaite qu'à travers l'intérêt que vous faites, vous aurez envie de faire des sciences. Il n'y a plus assez d'étudiants en sciences aujourd'hui en France. Il n'y a plus assez de jeunes qui embrassent ces carrières scientifiques vers la recherche. On a besoin et il faudrait que les politiques suivent ces accompagnements de carrière vers la recherche. Mais on a besoin de jeunes qui s'orientent vers ces métiers scientifiques. Alors vous avez autre sujet, je m'arrêterai là, l'eau, qui est un autre sujet mondial, d'intérêt mondial. Et puis les transports avancés ou les transports... L'énergie du futur, je dis des transports avancés parce qu'il y a un congrès à Poitiers sur les transports avancés. Comment économiser l'énergie, les transports étant un des facteurs. Donc vous voyez, vous êtes dans des sujets d'actualité, hein, vous êtes au cœur des débats. Et je peux vous dire que la nuit dernière, on a failli faire passer le fait que le gène était au patrimoine de l'humanité à l'Assemblée. Ça s'est joué à une vingtaine de voix pour que personne ne puisse breveter le vivant. Et donc tous ces sujets... je ne sais pas si les débats vont venir là-dessus, mais sont aujourd'hui traités par les politiques, mais on a besoin des scientifiques pour nous éclairer. Donc à vous de travailler, de réfléchir à ces sujets, et félicitations d'être ici, et aux enseignants qui les accompagnent et qui font un remarquable travail.
Oui. Eh bien, bonjour à tous, merci aussi d'être venus si nombreux, la salle est pleine. Je m'appelle André Naudon et je suis président du comité scientifique des clubs. Et c'est à ce titre-là que je vais vous dire quelques mots sur le déroulement de la journée, c'est Elisabeth Nau qui parlera, mais moi je vais vous dire 2 mots du CNRS parce que le représentant du CNRS officiel, M. Roger Fréty, n'est pas là, nous rejoindra ce soir simplement. Et donc, je vais vous dire 2 mots. Le CNRS, comme vous savez tous, est un grand organisme de recherche qui regroupe 30 000 personnes, dont 26 000 titulaires, 11 000 et quelques chercheurs, 14 000 techniciens. Bon, on en parle beaucoup, il y a des restructurations en cours, ce n'est pas l'objet de cette réunion-là. Dans la région Poitou-Charentes, le CNRS est divisé en régions. Donc nous sommes dans une région administrative qui s'appelle Centre Poitou-Charentes, qui est pilotée par Orléans. Mais la région Poitou-Charentes regroupe 26 ou 7 formations associées au CNRS, essentiellement sur Poitiers. Il y a dans les 200 et quelques chercheurs, personnel CNRS sur Poitiers, une quinzaine à La Rochelle, 25 à Chizé. Voilà. Alors, l'essentiel est quand même sur Poitiers, avec toutes les disciplines qui sont représentées, des sciences pour l'ingénieur, les sciences chimiques, biologie, santé, agronomie, écologie, les géosciences, les sciences humaines, économiques et sociales, et les sciences juridiques. Mais il y a quand même un gros pôle sur le site du Futuroscope, qui est les sciences pour l'ingénieur, avec l'ANSMA, l'école d'ingénieurs. Voilà. Bon. Et c'est là qu'a ce congrès aujourd'hui qui s'appelle MUTA, Mobilité Urbaine et Transports Avancés. Et La Rochelle, bon, La Rochelle, il y en a un peu moins, mais c'est plus basé sur les sciences de l'environnement, la mer. Et Chizé, c'est le centre d'études biologiques des animaux sauvages. Cette journée aujourd'hui, donc, notre rencontre, c'est pour une rencontre, une journée de dialogue et de réflexion entre lycéens et chercheurs. Et cette journée, c'est pour que vous, lycéens, vous posiez des questions aux chercheurs qui sont là. C'est à vous de prendre la parole, puisque cette rencontre-là fait suite aux grandes rencontres nationales qu'on a sur le site du Futuroscope, les rencontres sciences et citoyens, pilotées par Edgar Morin. Et c'est pour que vous posiez des questions scientifiques et vous aurez des scientifiques de laboratoire ici dans les trois ateliers qui vont suivre pour vous répondre, enfin pour essayer de vous répondre ou essayer de recadrer entre vos questions qui peuvent être très très générales, peut-être trop générales, et les recentrer sur les activités des laboratoires de recherche sur Poitiers. Poitiers ou La Rochelle. Voilà. Eh bien, puisqu'on est en retard, je crois que maintenant, c'est Elisabeth Nau qui est chargée des relations du CNRS. Non.
Bonjour. Non, simplement de la communication CNRS en Poitou-Charentes. Merci à tous d'être venus. Je remercie tout particulièrement les enseignants animateurs ou les animateurs des clubs CNRS, ainsi que les conseillers scientifiques. Il y en a quelques-uns qui sont présents ici. Donc, je vous rappelle un petit peu l'organisation de la journée. Donc, l'ouverture, on y est. Ensuite, les ateliers, les clubs vont présenter leurs actions, donc dans l'ordre du programme, on va essayer. Ensuite, vous aurez la présentation des ateliers par les responsables d'ateliers. Puis, les ateliers qui se dérouleront. Alors, l'énergie dans cette salle Confluence. L'eau se déroulera au planétarium. Et puis OGM et PGM en salle de réunion. Ensuite, nous irons déjeuner tous au restaurant universitaire Roche d'Argent, un aperçu pour vos études supérieures. Et ensuite, nous continuerons les ateliers, toujours dans les mêmes salles, et nous nous rejoindrons après la pause pour la synthèse. Je remercie par avance les enseignants qui ont accepté de réaliser cette synthèse, et la clôture et la journée devraient se terminer à 16h30. Donc merci à tous, et puis là je vais passer la parole au premier club, c'est-à-dire à Auguste Perret, s'il vous plaît, merci. Donc Christian Grandsaigne, et puis enseignant animateur et les élèves du club du lycée Auguste Perret.
Bien, donc en tant que premier club d'inauguration, on va déroger à la règle. Normalement, on avait dit que ce seraient les élèves qui devaient présenter. Ceci dit, je vais leur passer la parole juste pour décrire un petit peu une partie des activités. Voilà, on vient de boucler notre année d'activité au club CNRS du lycée Auguste Perret avec la mise en place du bilan carbone de l'établissement, donc la comptabilisation complète de toutes les émissions de gaz à effet de serre de notre établissement. Et on l'a présenté il y a deux jours à l'ensemble de la communauté éducative, on va dire. On a au moins les gens qui sont venus pour y assister. Et c'est un bilan carbone qu'on a rendu public puisqu'on a accueilli la presse. Donc on a été dans le feu de l'action, je dirais, jusqu'à mardi dernier. Et donc on a eu un petit peu de mal pour s'organiser, pour rebondir pour ces rencontres. Hein. Donc, cet atelier scientifique et technique Club CNRS a trois années d'existence. On s'était engagé il y a deux ans dans la mise en place, la première année d'existence en tout cas, dans la mise en place d'un premier bilan carbone complet de l'établissement avec une douzaine de jeunes volontaires et une vingtaine de personnels qui s'est associé à la mise en place de ce premier bilan carbone. Ça avait été une expérience assez riche et complète parce qu'il a fallu aller chercher toutes les informations sur ce qui était émetteur de gaz à effet de serre dans l'établissement. La deuxième année, on avait lancé un atelier scientifique basé un peu plus sur des activités recherche. Hein. On avait cherché à réaliser un agro-parpaing. Et donc cette année, on est reparti sur cette idée d'un deuxième bilan carbone pour voir un petit peu où on en était 2 ans après. Hein, puisque le travail de cet atelier, c'est basé aussi sur des tentatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre en faisant un petit peu plus attention à ce qu'on consommait, par exemple, à la cantine, ou quelques petits gestes quotidiens, on va dire. Donc on a associé à l'activité un certain nombre d'informations. Et puis aussi des efforts qui ont pu être faits sur le déplacement. Déplacement des élèves et des personnels vers l'établissement, on a essayé d'encourager des pratiques alternatives. Voilà, donc on a un petit peu... Alors les résultats sont quand même intéressants. Je pense qu'on pourra les rendre publics d'ici très très peu de temps. On travaille un petit peu à leur mise en forme, donc on va réaliser une exposition et les rendre publics sous la forme des journaux de bord du club CNRS. Tous les journaux de bord depuis le début de l'existence du club sont en ligne sur le site de notre établissement, hein, donc le lycée professionnel Auguste Perret. Et donc on est au 10e journal de bord. Il y en aura un 11e qui va parler de ce bilan carbone. Donc on est à peu près, toute émission confondue, à une réduction de près de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et on n'est quand même pas trop mécontent de ce résultat, même si aujourd'hui on a vu qu'il y a encore des petits ajustements à faire sur la comptabilisation des différents facteurs d'émission. Voilà. Alors, juste pour situer un petit peu le travail des élèves et des personnels dans le cadre de ce club, cette année, il y a des petits groupes d'élèves qui ont été constitués pour comptabiliser des facteurs d'émission de gaz à effet de serre. Donc Claire Barou et Antoine Roy, par exemple, ont été les moteurs et les leaders d'un groupe qui a essayé d'estimer la consommation des denrées alimentaires. Donc moi, je vais leur laisser la parole pour qu'ils racontent un petit peu comment ça s'est passé, rapidement. Hein. Donc qui est-ce qui parle?
Oui. On a tiré au sort.
Non, vous avez tiré au sort.
Donc en fait, on a comptabilisé tout ce qui était alimentaire, tout ce qui rentrait dans la cantine, donc tout en kilogrammes. Donc on a dû aller faire des recherches dans la réserve pour savoir, par exemple, un litre de je ne sais trop quoi pesait tant. Oui, voilà. Et donc on a dû tout comptabiliser, mettre sur un tableur Excel pour après redonner les informations. Et on a fait ça pour cette semaine.
Alors cette semaine, oui.
On a comptabilisé 7 semaines entières d'entrée d'aliments dans la cantine.
Voilà. Ça représente un sacré travail, hein, parce qu'effectivement, oui, ça représente un gros travail, parce qu'effectivement, il a fallu reprendre toutes les fiches de sortie de matières premières de la cantine. Voilà. Donc je pense que pour un bilan plus complet, vous pouvez aller consulter les résultats du bilan carbone sur notre site. Hein. On va peut-être laisser la parole au prochain. Enfin, moi, que vous ayez des questions.
Est-ce qu'il y a des questions qui sont à poser sur ce club-là? Vous avez des questions dans la salle? Donc, on va passer... Oui, il y a une question?
Alors, au total, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à recruter des élèves. Donc, il y a eu 6 élèves seulement qui se sont associés à ce deuxième bilan carbone. Et par contre, du côté des personnels, il y a une 20aine de personnels qui se sont associés. Il faut bien signaler que l'engagement est entièrement bénévole et volontaire. C'est-à-dire que les élèves qui participent ne font pas cette activité dans le cadre de leurs enseignements. Les personnels viennent de façon tout à fait volontaire et bénévole. Voilà. Par contre, bon, un peu moins d'élèves pour cette année. Bon, c'est le regret.
On va passer maintenant au lycée Jean Moulin. Donc, l'enseignant animateur, c'est Marc Couturier, le responsable. Oui, ils y vont tout seuls, normalement, les jeunes. Alors, utilisez bien le micro parce qu'on enregistre.
— Donc en fait, on a fait partie de l'atelier scientifique en fait, qui est avec Génération Océan, donc qui est partenaire avec l'IFREMER, pas l'IFREMER, CNRS. Et donc on a commencé l'année dernière à faire une recherche sur le plancton. Donc on a vu à peu près au début, d'abord étudier les types de plancton qu'il y avait, donc phytoplancton, zooplancton. On a commencé à faire des prélèvements pour pouvoir l'étudier et le voir. Et cette année, dans le cadre des TPE, deux groupes ont choisi donc de prendre le plancton comme TPE pour le bac. Donc on va vous présenter notre TPE, donc ce qu'on avait fait sur l'étude donc du phytoplancton pour nous. Donc en fait au début nous pour le TPE on partait pas du tout pour faire le plancton, on partait pour faire des plantes, donc étudier des plantes en serre. Mais à la suite de ce que nous a dit M. Couturier, on a choisi de prendre le plancton. En fait on pensait au début que ce serait assez simple, qu'il suffirait d'en prendre et puis de comptabiliser pour voir à peu près comment le plancton se développait en fonction de la température. Mais le problème qu'on a eu c'est qu'en le mettant en aquarium, bah, le plancton ne se développe pas et il y a à peu près qu'un ou deux développements par an qui sont vraiment visibles. Donc à partir de là on a commencé à vouloir voir des données. Et pour ça, essayer de trouver un lieu.
On savait quoi ? On savait comment. On savait pas vraiment comment comptabiliser. Donc, on a appris que plancton, qui était un corps végétal, enfin phytoplancton, produisait de la chlorophylle. Donc, pour savoir la quantité de plancton, il nous suffisait de calculer la quantité de chlorophylle. Ben, on savait quoi, on savait comment, mais il nous manquait un lieu pour trouver des quantités de phytoplancton suffisantes. Donc au début, on a hésité entre l'estuaire de la Gironde et la Marraine d'Oléron. Et pour finir, on a pris la Marraine d'Oléron qui est un lieu propice au développement du phytoplancton.
Donc là, on savait où chercher. Il nous manquait plus que les données pour savoir... pour savoir ce que ça donnait à peu près. Donc on a cherché sur internet, on a trouvé majoritairement des informations sur l'IFREMER, mais les informations n'étaient pas tout le temps très bonnes parce que c'était que des prévisions et c'était que pour le jour J, donc on pouvait pas vraiment les exploiter. Alors après on a rencontré à la 17e rencontre CNRS Jeunes Monsieur Hatt, qui lui nous a fourni des informations qu'on a pu exploiter par la suite.
Alors, on savait où chercher, donc il nous manquait plus qu'à essayer de prélever du plancton. Donc, on a vu deux méthodes de prélèvement utilisées, celle de l'IFREMER qui consiste à plonger des tubes de 1 litre à une profondeur donnée pour calculer la quantité de plancton. Non, c'est moi. Donc après, on a été effectuer une pêche avec les méthodes du CNRS. Il s'agit en fait de tirer un filet de avec des mailles spéciales de 200 micromètres derrière le bateau et de relever tout le plancton attrapé.
Donc on a eu les données. On a observé que entre les températures 10 et 15 degrés, on observait les plus grands pics. Enfin, c'est là où il y avait le plus de plancton. Donc on en a conclu que c'était un bloom planctonique. Et on a favorisé les données sur Boyard, qui sont en haut. Car c'était situé plus vers la mer. Alors que l'autre graphique, c'était sur les fontenelles, et qui est situé dans l'estuaire de la Gironde.
Donc le problème à la suite, on a vu donc avec l'autre groupe qui a pris la salinité avec le plancton, c'est que bah, en fait, y a notamment sur Marine d'Oléron, il y a de nombreux facteurs. Parce que déjà, il y a la marée, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement lorsque les prélèvements sont faits si la marée est haute ou basse. Et alors, lorsque la marée monte, en l'occurrence, on a un changement de la salinité, la turbidité, et donc ça fait beaucoup de facteurs. Et donc, à partir de là, on a eu beaucoup de mal à conclure pour savoir si vraiment la température était le facteur principal, puisqu'il pouvait très bien, en fait, le plancton ne se développer qu'à, par exemple, qu'en automne et au printemps, comme ça se passe, mais on ne pouvait pas dire que c'était nécessairement dû à la température. Ça peut être un autre facteur, ou tout simplement la saison qui fait qu'ils se reproduisent à ce moment-là. Donc, voilà.
Donc nous, on a travaillé dans le cadre de l'atelier scientifique pendant 2 ans. Et donc finalement, cette année, pour les TPE, pour le bac, on a décidé d'étudier le plancton en fonction de la salinité. Donc pour cela, on a été échantillonné sur le terrain. Donc la première fois en Bretagne, au Croisic. Donc là, on a utilisé des tubes en PVC de 10 litres. Mais nous n'avons pas retenu cette méthode puisqu'il y avait beaucoup trop de pertes lors de la remontée. Et ensuite, on a été à La Rochelle, dans l'estuaire de la Charente, et là on a utilisé un filet à mailles très fines qui était accroché au bateau lors de la navigation. Donc le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'on pouvait prélever qu'à la surface. Donc ensuite, on a été accompagné par un doctorant, Julien Modéran, qui nous a ensuite fourni une banque de données que nous avons pu étudier pour créer des graphiques.
Donc nous, en fait, on a créé des graphiques grâce aux données de Julien Modéran. Donc lui, c'est un doctorant au CRELA. Donc ces graphiques, c'est la concentration par mètre cube en plancton pour chaque espèce en fonction de la salinité. Donc on a bien vu qu'il y avait des variations significatives. Donc là, par exemple, pour les Mesodopsis sableri, on voit bien qu'il y a une variation de la concentration du plancton par rapport à la salinité. Mais en fait, il ne faut pas oublier aussi que les données de Julien Modéran n'ont été faites que lors d'un prélèvement. Donc il aurait fallu d'autres pour vérifier nos résultats. Il faut prendre en compte aussi la température qui joue un rôle important sur la répartition, que chaque espèce a un mode de vie différent, une nutrition aussi plus ou moins différente, et les périodes de reproduction. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser aux jeunes qui se sauvent? Donc je voudrais remercier les jeunes d'avoir fait cette présentation. Ah, il y a une question.
Oui, une question à l'un d'entre vous. Oui. Le CRELA, vous oui. pouvez nous dire ce qu'est le CRELA?
Bah non, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est Golène.
Bah, c'est un centre de recherche scientifique à La Rochelle.
Voilà. C'est le centre de recherche en écologie du littoral et aquaculture. Et dans des systèmes littoraux anthropisés. Voilà. Et qui s'appelle maintenant le laboratoire LIENS, depuis le 1er janvier. Donc c'est une unité CNRS et Université de La Rochelle. Mais UMR, ça ne parle pas trop. Donc c'est une unité mixte CNRS Université de La Rochelle. Je voulais remercier donc les jeunes du lycée Jean Moulin, et je voulais aussi attirer l'attention sur Lucie, je ne sais pas si Lucie m'entend, qui est également du lycée Jean Moulin et qui a permis l'organisation de cette journée. Lucie est stagiaire en BTS au lycée Jean Moulin de Montmorillon, et donc elle a assuré l'organisation de cette journée. Donc, je propose que nous passions maintenant au club du lycée Camille Guérin, qui est un très jeune club qui a été créé cette année.
Bonjour. Oui, du monde. Donc nous représentons le club CNRS du lycée Camille Guérin. Donc nous travaillons sur un personnage scientifique qui est né dans la région, qui est Monsieur Jacques Babinet, qui est donc l'inventeur du goniomètre. Voilà.
Insistant quand même.
Donc en réalité, nous sommes deux groupes. Un premier qui fait donc 5 élèves, formé de 3 garçons et 2 filles. Et donc un second groupe qui lui est formé de 8 personnes, 6 garçons et 2 filles. Donc nous avons choisi de faire partie de ce club pour travailler sur les sciences de manière un peu différente, puis aussi pour notre culture générale personnelle. Puis un peu par suggestion de nos professeurs de physique respectifs. Donc nous travaillons tous une heure par semaine, donc rassemblés en groupe, et nous avons commencé début janvier et irons jusqu'à fin décembre de l'année prochaine. Donc nous ne travaillons pas tous au même moment, hein, nous nous organisons par groupe. Et donc
le club a plusieurs objectifs. Donc tout d'abord, on va essayer de découvrir le fonctionnement du goniomètre, qui est normalement utilisé que par les classes préparatoires. Donc pour cela, il faut d'abord acquérir des nouvelles compétences en physique, théorique et puis après expérimentale. Donc nous avons déjà réalisé plusieurs activités, notamment le croquis du goniomètre pour se familiariser un peu avec cet instrument. Donc nous avons légendé, etc. Vas-y.
Pour préparer notre travail, nous sommes intéressés à l'histoire de l'optique. Donc nous avons fait beaucoup de recherches sur l'optique avant de sélectionner un certain nombre de dates ayant trait aux découvertes, qui sont les découvertes ayant précédé celles de M. Jacques Babinet, et donc qu'il a utilisé pour mettre au point son appareil. Ensuite, nous sommes intéressés à la vie de Jacques Babinet. Donc c'est quelqu'un qui est né à Lusignan, donc en 1877, enfin voilà. Merci. Donc en 1794. Donc il a étudié à Poitiers au lycée Henri IV, donc qui était à la place de l'actuel collège. Ensuite il est monté à Paris, il a fait d'abord des études de droit, puis au bout d'un pour faire comme son père qui était juriste, Puis au bout d'un moment, il a décidé que ça ne l'intéressait plus, et il a décidé de passer aux sciences. Il a donc fait Polytechnique. C'était quelqu'un d'assez fort. Il est donc devenu professeur, il a enseigné au lycée Henri IV à Paris. Ensuite, il s'est lancé dans les sciences. Il a d'abord travaillé avec Monsieur Ampère, qui est donc à l'origine de la fameuse unité physique. Il a ensuite, entre-temps, il a épousé Madame Adélaïde Laugier. C'est assez intéressant. Il avait donc une vie en plus. Il est ensuite entré au Collège de France, qui est une très grande institution en France, qui est à Paris, et qui en fait dispense des cours en accès gratuit pour toute personne désireuse de les suivre. C'est un peu compliqué, soit dit en passant. Donc il a aussi travaillé à l'Observatoire astronomique de Poitiers, de Paris, parce que c'était quelqu'un d'assez diversifié. Il a aussi participé à rendre les sciences un accès pour tout le public, ce qu'il a fait de la vulgarisation pour que tout le monde puisse comprendre les grandes découvertes. Donc c'était, pour son époque, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle, c'était assez nouveau. Donc sa grande découverte, c'est le goniomètre. Donc le goniomètre est un appareil d'optique qui sert à mesurer notamment des angles des cristaux. Donc avant, on utilisait quelque chose d'assez imprécis, et donc sur demande de l'industrie de l'industrie diamantaire, c'est-à-dire qui s'occupe de ces pierres précieuses, il a décidé d'utiliser donc tous les rayons optiques pour mettre au point un appareil permettant d'en définir les formes avec grande précision. Donc, ensuite, son appareil a été utilisé pour de nombreuses autres choses, telles que l'étalonnage du mètre. Mais au début, c'était une idée économique, hein, avant tout. Voilà. Donc cet homme a eu la Légion d'honneur assez jeune, en récompense de ses nombreux travaux. Voilà. Ah oui. Donc, certains ont été visiter la collection d'objets anciens du lycée Henri IV.
Donc c'était il y a une semaine, donc nous sommes allés visiter le collège Henri IV où Babinet a fait ses études et a aussi enseigné. Donc nous allons travailler sur des panneaux pour ses 400 ans. Et le principal nous a accueillis et nous a expliqué tous les travaux qu'il comptait faire pour cette journée. Donc tout d'abord, il nous a montré de nombreuses salles qui contiennent des livres qui malheureusement s'abîment à cause de l'humidité. Donc des bénévoles les inventorient et les mettent dans d'autres salles qui sont plus sèches. Voilà. Et il y a aussi des élèves qui font des travaux sur les livres pour les rénover un petit peu, pour qu'après le grand public puisse lire certains ouvrages. Et nous avons aussi visité donc l'exposition d'instruments d'optique, qui eux aussi doivent être rénovés et placés dans d'autres armoires pour pouvoir être visités. Donc dans cette exposition, nous avons notamment vu le goniomètre de Jules Dubosc, donc qu'on peut voir ici avec le détail. Vas-y. Voilà, le détail donc de Jules Dubosc et son dessin. Donc comme Arthur a expliqué, qui permet de mesurer les angles. Donc on place le cristal au milieu et après on fait des visées pour pouvoir classer différents cristaux. Et donc les activités que nous avons prévues de faire sont la réalisation de panneaux qui sont destinés à l'exposition du Collège Henri IV qui aura lieu le 28 juin pour son 400e anniversaire. Chaque élève choisit plusieurs thèmes, donc soit sur la vie de Jacques Babinet, soit sur le goniomètre, qui seront donc exposés lors de cette journée. Donc voilà. Et les autres activités ne sont pas encore destinées parce que, comme nous sommes un groupe, donc plusieurs élèves proposent différentes activités. Et pour l'instant, cette activité a été retenue. Et après, les autres sont encore à définir.
Donc merci au club de Camille Guérin. Est-ce qu'il y a des questions ?
Deux secondes, je vais prendre le micro parce que c'est enregistré.
Le goniomètre que vous présentez là de Jules Dubosc, il est postérieur à la découverte donc de Monsieur Babinet, et vous avez comparé pour voir.
Non, Monsieur Jules Dubosc est un contemporain de Monsieur Babinet. En fait, c'était son associé.
D'accord.
C'était un fabricant d'objets d'optique, donc avec qui il s'est associé pour ensuite le commercialiser.
Donc en fait, c'est bien le concept de Monsieur Babinet que vous présentez. Oui, ça faudrait le préciser. Alors. Merci bien. Il n'y a plus de questions. Là, je vais faire une petite transition. Vous venez de voir Christine qui se déplace. Donc, Christine coordonne avec, pour l'Espace Mendès France, les clubs CNRS Jeunes sur Poitou-Charentes. Christine Guiton.
Bonjour.
Voilà. Et puis maintenant, donc, je suis assez fière d'accueillir ce nouveau club parce que nous avions le premier club en lycée professionnel en Poitou-Charentes. Et nous avons également le premier club en lycée agricole en Poitou-Charentes. Donc c'est un tout nouveau club, il a été signé très très récemment. Donc c'est le lycée agricole Jacques Bugeaud.
Bonjour à tous. Alors, comme il a été dit, le club CNRS de notre lycée est le premier club CNRS d'un lycée agricole. Et donc, le sujet principal de nos actions pour ce club jeune CNRS est donc une étude autour de la plante angélique du marais poitevin. Donc, je vais parler un peu du lycée. Donc, c'est un lycée d'enseignement professionnel, général et technologique qui se situe à Mel, à une vingtaine de kilomètres de Niort et une cinquantaine de kilomètres d'ici. Concernant les BTS, il y a trois sections, donc production animale, analyse biotechnologique et BTS gestion protection de la nature, dont nous avons intégré la promotion en 2006. Et donc dans cette formation BTS-GPN, en deuxième année, nous avons réalisé un projet d'initiative et de communication sur un sujet de notre choix. Alors nous avons choisi comme thème principal en fait une réflexion autour des différentes utilisations des plantes sauvages, donc utilisation culinaire, médicinale, utilisation dans le bâti par exemple. Et nous avons également parallèlement réfléchi sur un projet de valorisation de l'angélique, donc une plante bien connue dans l'Ouest. Et donc ce sujet sur la valorisation de l'angélique nous a valu l'inscription au club CNRS Jeunes en février 2008. Alors pour ce projet, nous sommes encadrés de deux professeurs, deux personnes du lycée. Donc Monsieur Atif Kabli, qui est préparateur au laboratoire du lycée, ainsi que Monsieur Olivier Goudot, professeur d'éducation socio-culturelle au lycée. Et nous avons également été tutorés par une personne du CNRS, pas grave, Monsieur Jean-François Cholet, qui est chargé de recherche en géobiologie organique, géochimie organique, autant pour moi. Alors concernant maintenant la présentation de l'espèce angélique du marais poitevin. Alors, donc c'est une plante originaire de Scandinavie, Europe du Nord, qui a été ramenée en France vers 480 après Jésus-Christ. Donc c'est une ombellifère de la famille des apiacées, qui présente deux espèces, en fait, deux variétés, je veux dire, ici. Donc l'Angelica sylvestris, qui est la variété sauvage, et l'Angélica Arcangélica qui est cultivée dans le Marais Poitevin. Donc plus précisément sur l'espèce, donc c'est une plante bisannuelle qui peut atteindre 1,80 m de haut et qui trouve bien ses conditions dans le Marais Poitevin avec les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc pour décrire plus précisément la plante, c'est une plante comportant une tige rougeâtre creuse, cannelée, avec des feuilles tripennées, des feuilles largement pennées. Et donc la différence entre l'espèce sauvage sylvestris et l'espèce cultivée, en fait, c'est que la tige de l'espèce cultivée est beaucoup plus volumineuse, donc ça apporte un avantage pour la création de confiseries, et ainsi de suite.
Donc un peu pour justifier le choix de cette plante, c'est une plante très largement emblématique du sud des Deux-Sèvres, puisque son histoire est très liée à celle de la ville de Niort. En effet, les origines nordiques de l'angélique remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été ramenée chez nous vers 480 après Jésus-Christ, lorsque les Scythes sont arrivés chez nous grâce aux Romains. Elle a ensuite été très cultivée par les moines. Au Moyen-Âge, les moines y reconnurent déjà de grandes qualités médicinales, comme par exemple des qualités toniques, stomachiques et expectorantes. En 1603, lors de l'épidémie de peste, elle a notamment été utilisée en antiseptique, on va dire, pour chasser les puces et les rats qui transmettaient la maladie. On en fit aussi le vinaigre des quatre voleurs, donc là l'histoire est un peu insolite puisque c'était un antipesteux qui était réputé qui permettait de détrousser les cadavres sans trop d'inconvénients olfactifs, on va dire. Le plus remarquable, c'est qu'elle devint d'ailleurs un remède contre la peste par ses propriétés antiseptiques. Par la suite, ce sont les religieuses de Niort qui inventèrent l'angélique confite. Et d'ailleurs, ce fut d'ailleurs un commerce florissant pour la ville de Niort au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques structures comme l'association pour la promotion de l'angélique du Marais Poitevin qui cultive encore cette plante et qui en font la commercialisation sous forme de confiserie ou de liqueur. D'un point de vue qualité médicinale de l'angélique, ces qualités ont été reconnues dès le Moyen-Âge par les moines, mais aussi par les chercheurs de l'époque. Donc on lui a très vite reconnu des qualités stomachiques, puisque c'est une plante qui a la faculté de faciliter les sécrétions gastriques, mais qui est aussi apéritive. C'est une plante aussi qui a des vertus antispasmodiques, donc qui aide à lutter contre les spasmes nerveux et aussi digestifs. Et c'est également une plante tonique, puisqu'elle aide à lutter contre l'asthénie. On y prête aussi largement des vertus antiseptiques. Aujourd'hui, l'angélique est surtout utilisée sous forme d'huile essentielle que l'on trouve à acheter particulièrement dans les pharmacies. Donc, l'objectif principal du club CNRS Jeune qui a été créé dans notre lycée, c'est tout d'abord une valorisation de l'angélique dans l'agriculture durable, notamment chez les apiculteurs, puisque M. Cabli réalise actuellement en collaboration avec un apiculteur de l'Indre-et-Loire des tests visant à prouver l'efficacité de l'huile essentielle d'angélique pour lutter contre le varroa de l'abeille, qui est un parasite redoutable qui décime les abeilles chez nous. Parallèlement à cette expérimentation, on a aussi, dans le lycée, il y a également eu des expérimentations concernant l'huile essentielle pour étudier la composition de cette dernière. Donc, en association avec la faculté de sciences de Poitiers, il y a un étudiant qui est venu faire les analyses au laboratoire du lycée. Donc ça a été une analyse qui a été réalisée par chromatographie et qui a permis de mettre en évidence la présence de rutine dans l'huile essentielle. Donc la rutine qui est un composant qui aide à fortifier les capillaires sanguins. Donc en ce qui concerne les perspectives d'évolution au sein de ce club CNRS, tout d'abord c'est tout un projet de collaboration avec les structures locales qui s'occupent encore de l'angélique, puisque actuellement il y a quand même un regain d'intérêt de la population niortaise pour l'angélique du Marais Poitevin, qui est une plante, on va dire, ultra patrimoniale de la ville de Niort. Et puis à terme, éventuellement relancer la filière de l'angélique, puisque au XVIIIe c'était un commerce très florissant et qui est tombé en désuétude depuis. Donc nous, notre projet, ça consiste à, à communiquer justement sur les vertus des plantes, mais plus particulièrement sur les vertus de l'angélique. Donc pour ça, on a déjà réalisé une exposition lors des portes ouvertes du lycée, donc le 15 mars, où on avait convié l'association de promotion pour l'angélique de Marais-Poitevin, donc qui a pu vendre ses produits et dialoguer avec les gens qui sont venus nous voir sur cette plante. Et puis le 25 avril, nous organisons également une conférence dans l'enceinte du lycée où il y aura plusieurs intervenants qui viendront parler de l'angélique, mais aussi des qualités des plantes en général. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ?
Merci. Mis à part la rutine que vous avez localisée, est-ce que vous avez vu d'autres principes actifs dans les composés que vous avez isolés qui ont des propriétés pharmacologiques ?
Actuellement, il n'y a que la rutine qui a été mise en évidence. Disons que l'expérimentation est en cours. Hein. Ça n'a pas été lancé depuis très longtemps. Donc actuellement, il y a la rutine qui a été mise en évidence. Mais il y a un certain nombre de composants qui sont connus depuis longtemps et qui existent dans l'angélique, comme les courmarines, les tanins, etc. Donc il y a déjà un certain nombre de choses de connues sur l'angélique, mais ça n'a pas été assez creusé. Donc le but du club CNRS, c'est vraiment de creuser pour essayer de la mettre en valeur. C'est vraiment une valorisation de cette plante qui est vraiment emblématique du sud des Deux-Sèvres. Donc on trouve intéressant de relancer la filière. Ouais,
ça signifie qu'après, peut-être qu'il faudrait avoir des tests in vitro, des tests cellulaires peut-être, pour voir un peu...
Je pense que oui, ouais. ça se fera à terme. Là, actuellement, on n'en est qu'aux prémices...
Et ce sont les tiges, les fleurs, les feuilles. Qu'est-ce qui est le plus exploité dans...
Alors, d'un point de vue de la fabrication de l'huile essentielle, on fait l'huile essentielle exclusivement avec les graines et les racines, en sachant que l'huile essentielle avec les graines, on a un pourcentage de 1 à 1,5% d'huile essentielle pour 1 kg de graines, donc ce n'est pas énorme. Et pour tout ce qui est confiserie, donc angélique confite, liqueur d'angélique, etc., dont on a amené quelques produits, on pourra vous faire goûter d'ailleurs... on utilise surtout les tiges, d'ailleurs d'où la sélection qui a été effectuée pour aboutir à l'Angelica Arcangelica, qui est une plante dont les tiges sont beaucoup plus charnues et donc beaucoup plus exploitables pour la confiserie.
Merci.
Oui. Non, non, c'est vraiment par l'huile essentielle.
Donc comment on peut, à ce moment-là, envisager la prévention ?
Disons qu'actuellement, les tests sont en cours, donc on n'est pas... mais enfin, c'est avec de l'huile essentielle, donc c'est par vaporisation, me semble-t-il. Enfin, un peu comme le même système qu'on a chez nous, la vaporisation des huiles essentielles qu'on fait brûler. Et l'angélique a quand même des vertus largement...
Oui, donc à ce moment-là, ce serait une vaporisation au niveau de la ruche.
Oui, bah comme il y a déjà des choses qui sont faites actuellement avec le thymol, me semble-t-il, qui est déjà utilisé sous cette forme pour lutter contre le varroa.
D'accord, merci bien.
Merci.
Maintenant le lycée Saint-Joseph de Bressuire, qui est un nouveau club également, mais qui va vous expliquer un petit peu comment il a commencé, je suppose.
Voilà, donc on a tout à découvrir de ce que sont les clubs sciences et CNRS jeunes. Hein. Donc c'est la cinquième année qu'il y a une pratique d'activité scientifique dans le lycée qui était appuyée au départ sur un atelier scientifique et technique mathématique lié à une association dont ils parleront peut-être, Matangine. Et donc cette année, il y a eu un élargissement avec un prolongement d'un projet donc élargie aux sciences de l'ingénieur.
Donc, nous, on a travaillé un peu sur la modélisation mathématique. Alors, on a eu un emploi du temps assez chargé, assez important. Ouais. Alors, on a eu plusieurs étapes dans notre année. En premier lieu, le 20 septembre, on a eu le lancement de l'atelier mathématique avec un exposé sur les équations différentielles et fluides. Le 11 décembre, on a eu une rencontre avec un lycée jumelé avec nous qui faisait aussi l'atelier mathématique. C'est le lycée LISA à Angoulême. Le 5 février, on a eu le lancement du club CNRS Jeunes avec un exposé sur la modélisation. Le 6 mars, une deuxième rencontre avec notre lycée jumelé d'Angoulême. Et le week-end dernier, on était à Paris, à l'université Denis Diderot, pour le colloque Graines de maths.
Un de nos premiers problèmes, c'était le carré dans un lacet maillé. Donc on prenait d'abord un lacet. Donc un lacet, on commence par un point et on trace une courbe à main levée et on revient sur le premier point initial. Et dans toute courbe, et on pense qu'il y a toujours un carré. Pour simplifier le problème, on a pris un carré maillé dans un lacet. Et en fait, la différence, c'est que là, tous les points sont disponibles pour trouver un carré. Et là, seuls les points sur le maillage sont disponibles.
Donc, le deuxième problème qui nous a été présenté, c'est un problème plutôt géométrique. Au départ, il nous a été présenté comme suit. On a un jardin circulaire et il y a une canalisation qui le traverse, mais on ne sait pas par où elle passe, cette canalisation. Et donc, on doit creuser une tranchée en un ou plusieurs morceaux, mais cette tranchée doit être de longueur minimale. Donc le problème se résume à un problème géométrique. On a un cercle et on sait qu'il y a une... Et en fait, on doit trouver une courbe qui soit la plus courte possible et de façon à ce qu'aucune droite ne puisse couper le cercle sans couper la courbe également. Et nous avons trouvé plusieurs figures. Plusieurs courbes la solution évidente ce serait de faire le tour du cercle, mais c'est pour un rayon de 1, ça fait une courbe de longueur de pi, et nous avons trouvé des solutions qui étaient inférieures à 2 pi.
Alors donc moi je vais vous présenter tout autre chose. Je vais vous présenter donc les projets de PPE des classes de terminale SI. Donc les PPE, c'est les projets pluridisciplinaires encadrés. C'est un peu comme les TPE, mais c'est pour des classes de terminale et sciences de l'ingénieur. Donc le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet des solitons. Alors les solitons, qu'est-ce que c'est? Pour simplifier très vaguement, les solitons en fait ce sont des vagues qui se propagent. Qui se propage dans l'eau, simplement une vague. Donc de quoi c'est parti ce projet-là? En fait, c'est parti du projet de l'atelier maths de l'année dernière, qui a repris un modèle discret qui permettait d'étudier les solitons. Et à partir de ce modèle, ils ont donc étudié les rencontres de solitons de différentes tailles. Et donc l'atelier maths l'année dernière a obtenu des résultats, enfin ils ont conjecturé des résultats sur la rencontre des solitons. Le problème, c'est que ça en était vraiment resté à l'étape mathématique. on n'avait rien vérifié. Donc cette année, nous, en PPE, en classe de terminale, notre projet, justement, c'est de construire un outil qui nous permette de vérifier ou au contraire d'infirmer les conjectures qui ont été faites l'année dernière en atelier maths. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça ? Pour vérifier, pour créer une rencontre de Soliton, on s'est donc dit qu'on allait créer un bac. Vous voyez un exemple de bac là-bas, sur la deuxième image. Donc notre projet, il a bien avancé. On a résolu pas mal de problèmes qui nous ont été posés. On a été visiter le laboratoire de physique des fluides de Poitiers pour poser quelques questions aux chercheurs pour qu'ils puissent un peu nous aider. Et donc aujourd'hui, le projet, il est assez fini, puisque on a résolu la plupart de nos problèmes, on a dimensionné la plupart des outils dont on avait besoin. Et voilà, on a actuellement une modélisation complète sous le logiciel de CAO du bac. On a tous les plans et un devis complet pour la production du bac. Donc ce bac ne pourra pas être produit pour des raisons de coût et surtout de temps, mais ça pourrait être encore un projet qui pourrait perdurer. Donc il est vraiment très intéressant ce projet parce qu'il reprend une démarche scientifique assez complète, dans le sens où on part de conjectures qui ont été établies par l'atelier des mathématiques, et nous par la suite on veut vérifier ces conjectures ou les infirmer physiquement à l'aide d'un outil. Donc le second projet que je vais vous présenter, c'est le projet de l'éolienne. Alors de quoi c'est parti, c'est encore une fois, c'est parti d'une idée des profs l'année dernière qui avaient eu l'idée d'alimenter tout l'éclairage d'un de nos préaux à l'aide d'une éolienne. Malheureusement, ça n'a jamais pu se faire parce qu'ils n'ont pas trouvé d'éolienne qui satisfaisait leurs besoins, et en faire une sur mesure, c'était beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, les élèves, un autre groupe d'élèves de terminale cette année, sont penchés sur la modélisation d'une éolienne, justement, pour répondre à cette attente. Donc, ils ont pris un modèle qui était disponible gratuitement sur Internet, mais qui ne correspondait pas du tout à leurs attentes. Donc, ils ont totalement réduit le modèle pour obtenir vraiment les résultats, la puissance qu'ils attendaient. Et donc, ça n'a pas été très facile, parce qu'ils n'ont pas réduit simplement toutes les dimensions par un coefficient. Ils ont été obligés d'un peu improviser, on va dire, utiliser des notions qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment. Mais ils ont obtenu finalement quelque chose d'assez conséquent, puisqu'ils ont modélisé entièrement cette éolienne sous logiciel de CAO. Ils l'ont complètement animée. Elle fonctionne très bien. Donc encore une fois, ils ont tous les plans. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire de devis. Et on ne pourra pas la fabriquer, encore une fois, pour des causes de coût et de temps surtout. Mais c'est vraiment un projet, encore une fois, qui pourrait perdurer, qui pourrait être achevé vraiment et qui pourrait avoir une utilité pour le lycée. Voilà pour les projets de PPE.
Alors, on a des étapes en projet. Alors, il y a trois dates importantes à retenir. C'est du 13 au 15 mai, il y a une participation à Expo Science à Niort. Le 21 mai, il y a une participation au concours Fête de la Science à Poitiers. Et le 8 juin, la publication des travaux. Merci.
Il y a des questions sur les mathématiques? Non, je pense pas. Mais merci à vous pour votre présentation. Et puis, je te repasse le micro.
Eh bien, nous allons continuer avec l'école de la mer. Isabelle Landriot, qui représente...
Merci Elisabeth. Alors, je vais vous demander de bien vouloir excuser les jeunes du club CNRS de l'école de la mer qui ont dû renoncer à venir sous la menace d'un zéro pointé, un devoir surveillé. Donc l'école de la mer, c'est une association et nous hébergeons depuis 2007 maintenant un club CNRS qui a la particularité de regrouper des lycéens de différents établissements et qui souhaitent travailler sur le milieu marin.
Donc avec un nom comme Club CNRS de l'École de la mer, vous vous doutez que nous travaillons donc sur le milieu marin. Notre conseiller scientifique, c'est Denis Fichet, qui est chercheur au laboratoire LIEN, à l'Université de La Rochelle. Et nous travaillons aussi en collaboration avec Jérôme Spitz, qui est doctorant. Donc notre thème du club, bien sûr, c'est le milieu marin, je vous l'ai déjà dit. Donc au programme, bah, les jeunes ont eu la possibilité récemment de visiter le tout nouveau laboratoire du bâtiment ILE qui vient d'être inauguré. Ils ont organisé des rencontres avec des biologistes marins qui sont venus leur expliquer comment ils travaillaient. Et les jeunes travaillent en partenariat avec Jérôme Spitz sur le rôle des otolithes dans la description du régime alimentaire des prédateurs supérieurs marins. Alors, en fait, ce travail consiste à aider l'acquisition de données sur les otolithes de poissons, puisque les chercheurs qui travaillent sur le régime alimentaire des prédateurs supérieurs mariens travaillent sur les contenus stomacaux des dauphins échoués. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans les estomacs à ce moment-là? Ce sont les restes non digérés. Et pour les poissons, ce sont en particulier les otolithes, c'est-à-dire des petites pièces calcaires qui font partie du système de l'oreille interne. Donc ces pièces sont non digérées et elles ont la particularité d'être de formes différentes en fonction de l'espèce de poisson et de grandir avec le poisson. Donc les jeunes du club, à partir d'échantillons qui proviennent de campagnes océanographiques, vont acquérir des données qui vont essayer de relier les poissons aux otolithes. Donc comment elles font ça? Elles se réunissent les mercredis après-midi puisqu'elles viennent de lycées différents et elles vont dans un premier temps travailler sur les poissons, c'est-à-dire les peser et les mesurer. Ensuite, elles prélèvent les otolithes. Les photographier de façon à pouvoir reconnaître après les différentes sortes d'otolithes pour les relier à une espèce de poisson. Les mesurer à l'aide d'un pied à coulisses, ce qui leur permet après, en mettant tout ça dans un tableur Excel, de faire des graphiques qui relient, il manque un truc, la taille de l'otolithe à la taille du poisson ou son poids. Donc la prochaine étape, à partir de ces données qu'elles ont commencé à acquérir, ça va être de faire le travail inverse, à savoir qu'elles vont participer à un tri de contenu stomacal d'otolithes. Et à partir de là, elles vont essayer avec le chercheur de reconnaître les otolithes, de les mesurer et d'essayer de deviner ce que pouvait avoir mangé le prédateur dont il sera question. Je vous remercie de votre attention.
Une question.
Isabelle. Est-ce que le projet est né d'une demande du doctorant ou est-ce qu'il est né d'un groupe d'élèves qui avait envie de travailler sur ce thème-là en particulier ou sur un autre thème?
Alors en fait, l'École de la mer proposait un club qui s'appelait les bénévoles scientifiques depuis 3 ans, qui proposait de découvrir le milieu de la recherche par une méthode de collaboration. Et il y avait plusieurs chercheurs qui proposaient des sujets. Donc en 2007, on s'est rendu compte avec le CNRS qu'on avait les mêmes objectifs qu'un club CNRS, donc on est devenu un club CNRS. On a continué à proposer plusieurs sujets, et c'est le sujet qui a été choisi par l'ensemble des jeunes de cette année. D'autres questions? Oui.
Attendez 2 secondes, j'arrive.
Ce sont des promotions annuelles ou est-ce que c'est un groupe de jeunes sur plusieurs années?
Alors, il y a des jeunes qui sont restés 2 années. Donc là, on est à la 3e année, donc ce n'est pas toujours les mêmes jeunes. On a de nouveaux chaque année. On a eu beaucoup de pertes par rapport aux premières années puisque tous ceux qui sont partis à l'université ont arrêté bien évidemment le club et que le recrutement de cette année est un peu difficile puisque bon, on fait les séances les mercredis après-midi, ils ont d'autres activités. Mais en général, jusqu'ici, pratiquement tous sont restés 2 ans.
Ça représente un groupe de combien de jeunes?
Alors, on est passé de 10 à 3.
Excusez-moi.
Bien, c'est vrai qu'on peut noter la difficulté et féliciter tous les jeunes des clubs, justement, parce que ce n'est pas facile de s'investir comme ça, en plus du travail scolaire, dans des activités scientifiques ou non scientifiques. Merci à tous les clubs d'avoir présenté leurs actions, leurs activités. On va passer maintenant à la deuxième partie de la journée, qui sont les ateliers. Et je vais appeler les trois responsables d'atelier, donc Nathalie Carpel-Velletner, Bruno Constantin et André Nodon, pour présenter leurs ateliers respectifs. Donc il y a quelques petits changements à noter qu'ils vont vous signaler. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez.
Moi aussi. Ça marche. Ça marche. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Carpel. Je suis animatrice de l'atelier autour de l'eau. Avant de vous parler un peu de ce qu'on pense aborder dans cet atelier, je voulais d'abord dire que je suis très très agréablement surprise. Enfin c'est pas une surprise, mais je félicite vraiment les jeunes et le contenu et le niveau scientifique de la teneur des clubs. Je trouve vraiment à la fois le travail effectué et puis les présentations étaient vraiment d'une excellente qualité. Donc c'est quelque chose de très intéressant et que je découvre puisque c'est vraiment la première fois que j'assiste à la présentation de ces clubs. Donc dans l'atelier eau, on souhaite un peu faire un tour d'horizon de ce qu'est la problématique de l'eau pour nous. Donc ce qu'on propose, c'est que les questions qui vont être abordées, on va essayer de les trier et de les classer dans un certain nombre de thèmes pour aborder, donc essayer de faire donc un tour vraiment assez exhaustif des problématiques autour de l'eau. Donc ce qu'on pense aborder, encore une fois, ça restera ouvert et c'est en fonction aussi des questions et de la manière dont vous voyez la problématique. On souhaite aborder un peu la problématique des ressources, donc les différentes ressources en eau, les usages de l'eau, donc pourquoi l'eau est nécessaire, donc les usages agricoles, industriels, domestiques, la pollution, bien sûr, c'est aussi une thématique qu'il faut absolument que l'on aborde, donc les différentes origines de pollution, la nature de des pollutions et la détérioration donc, des milieux aquatiques. Et enfin les remèdes, donc on discutera des remèdes pour résoudre les problèmes de quantité et de qualité d'eau, et puis les comportements ou les actions à mener autour de la citoyenneté pour essayer de voir comment on peut améliorer nos comportements vis-à-vis de la préservation de la ressource et de l'amélioration de la qualité. Et puis, encore une fois, en fonction de vos attentes, de vos problématiques, et puis des questions, on pourra éventuellement aussi aborder la situation internationale, la problématique de l'eau, mais au niveau du globe et à l'échelle planétaire. Donc voilà un peu comment on pense que la discussion sera organisée. Donc pour cela, on est trois chercheurs au CNRS. Donc Catherine Souty, qui est chargée de recherche et qui travaille plus dans le domaine de l'écologie des populations, hein, c'est ça. Donc des populations du milieu aquatique. Il y a Denis Paquet qui travaille plus sur l'hydrogéologie, hein, c'est ça. Et puis moi-même, donc plus sur les procédés de traitement et de dépollution des eaux. Donc voilà comment ça va. On pense que l'atelier va se dérouler.
Question peut-être.
Des questions. Donc, cet atelier se déroulera au planétarium qui se trouve juste au même niveau et en face de vous. Vous rentrerez. Voilà.
Bien.
Bien, ben bonjour. Bonjour, moi je suis donc Bruno Constantin, chargé de recherche au CNRS. Et donc je vais me charger d'animer l'atelier OGM et PGM. Alors, je serai tout seul aujourd'hui, que ce n'était pas prévu. Il devait y avoir aussi Pierre Coutos, donc de l'Université de Poitiers, qui est biologiste végétal. Et moi, je serai peut-être plus intervenu sur la partie biologie animale, mais ce n'est pas grave, je connais aussi la partie bio-végétale et on pourra discuter très tranquillement de tout ça. Alors, pourquoi les OGM ? D'abord parce que je suis chercheur en biologie et que j'utilise très régulièrement, presque tous les jours, des cellules génétiquement modifiées dans mon laboratoire pour pouvoir résoudre des questions scientifiques. Deuxièmement, parce que c'est un enjeu très important pour la santé et pour des thérapies nouvelles. Et ensuite, j'ai tenu à ce qu'on, dans le titre, à ce qu'on sépare un petit peu OGM, organismes génétiquement modifiés, et plantes génétiquement modifiées, parce que je voudrais aussi que l'on aborde un petit peu le problème ensuite des plantes génétiquement modifiées à visée alimentaire, qui va poser donc maintenant aussi d'autres problèmes, d'autres questions, qui seront des questions peut-être plus économiques, plus politiques, et avec des enjeux alimentaires pour la planète et le futur. On va d'abord essayer de définir ce que c'est qu'un OGM, très précisément, et de montrer la grande variété des OGM, pour pouvoir essayer d'avoir un petit peu des idées plus claires sur les enjeux et à quoi ça, ensuite ça peut servir, pourquoi les OGM, avoir un petit historique aussi. Et puis, en fonction des questions, eh bien, le débat s'organisera de façon totalement non contrôlée, imprévue, sans filet. Et on essaiera d'aborder ensuite des questions peut-être plus générales. J'aimerais bien qu'à la fin de cette journée, moi je vais faire un appel un petit peu aux autres, on ait une idée que les thèmes qui vont être abordés aujourd'hui, l'eau d'une part, les énergies renouvelables avec peut-être le lien au changement climatique d'autre part, et les plantes, donc notamment les plantes génétiquement modifiées, ce sont des thèmes qui sont tous reliés et qu'il faudra traiter un jour de façon globale. Voilà. Et je m'arrêterai là pour maintenant. S'il y a des questions, je les prends tout de suite. D'accord.
Oui, c'est le troisième thème, mais comme ça vient d'être dit, c'est vraiment des grands thèmes d'actualité. On en parle tous les jours. Et donc, l'atelier énergie et transport du futur, eh bien, vous savez tous qu'on parle du réchauffement de la planète, qu'on parle du CO2, et que l'énergie, eh bien, le pétrole, la voiture, ça émet du CO2, gaz à effet de serre, etc., et qu'il faudrait réduire. Bon, annuler, ce n'est pas possible, hein, mais réduire comment ? Alors, il y a des moyens techniques, mais il y a aussi des choix de société. Et nous, on sera un peu plus ici pour parler des moyens techniques. Et dans ces moyens, d'abord, on va se poser des questions, hein, à propos des combustibles fossiles, les biocarburants, les biocombustibles, l'évolution du transport terrestre, du transport aéronautique. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que on avait des gens, il y a le congrès MUTA aujourd'hui, hein, c'est mobilité urbaine et transport avancé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais on a quand même quelqu'un, Aurélien, ici, qui vient d'Angoulême et qui fait partie de cette, qui travaille sur la lubrification dans les nouveaux moteurs, et on pourra avoir des informations. Et donc, on pourra parler des nouveaux carburants, de la réduction des consommations, de la chimie des agro-ressources. Et là, il y a deux chercheurs qui vont arriver, hein. Qui sont les piles à combustible, véhicules hybrides, réduction des nuisances, durabilité et récupération des matériaux. Moi, je suis dans le domaine des matériaux. Les nouveaux propulseurs, le bruit, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions. On essaiera, si vous voulez, de ces questions parfois générales ou parfois très futuristes ou peut-être trop futuristes, de revenir à la recherche plus fondamentale qui se fait dans les laboratoires sur des grands thèmes, par exemple, que sont le frottement, et pour avoir une amélioration des moteurs, et puis, enfin, toutes les questions que vous voudrez, hein. Et l'essentiel, c'est que vous puissiez partir ce soir avec des éléments de réflexion. Vous n'aurez certainement pas des réponses claires et nettes parce que ce n'est pas possible. C'est, comme il l'a dit, hein, si on veut consommer comme... si on veut consommer comme un Français, il faudrait 3 planètes. Comme un Américain, il en faudrait 5. Comme un Éthiopien, 1, ça suffit. Bon, voilà. Alors, il y a donc ces grandes questions. Et comme tu l'as dit, elles sont effectivement reliées. Voilà. Si, non. Alors,
oui, gardez les questions pour les ateliers. Alors, je vais demander aux 3 responsables d'atelier d'être très vigilants sur l'heure de la fin de la matinée, s'il vous plaît, parce que nous allons donner rendez-vous à tous à 11h40 à l'accueil, de façon à partir au restaurant universitaire, pour éviter l'affluence des étudiants qui vont aller au restaurant et de façon à pouvoir... oui, 11h40, oui. Comme vous poursuivez l'après-midi, ça ne devrait pas poser de problème. Je vous rappelle les salles. Donc l'atelier énergie reste ici. L'atelier eau va au planétarium en face. Et l'atelier OGM monte au premier étage en salle de réunion. Donc bons ateliers et à tout à l'heure. Non, mais je te...